Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour la reprise de l'émission Temps Additionnel, votre émission d'actu sport hebdomadaire. Après un long moment d'absence, hein, une dizaine de mois, on avait vu avec Alex, l'actu sport revient, toujours en compagnie d'Alexandre. Adichats à toi Alex, comment ça va?
Adichats Raphaël, écoute, c'est un grand plaisir de reprendre cette émission. Parce que c'est vrai qu'à un moment, avec Raphaël, on avait l'idée de vendre l'émission à des grands investisseurs.
Exactement,
Qatari,
ouais,
ou
ouais.
Locaux
ouais,
même, mais...
ouais.
Mais bon, faute de repreneur, nous sommes de retour.
Ouais. On reste ici, voilà. Et nous sommes aussi en compagnie de Mylan, donc étudiante comme moi, il y a JT. Mylan, comment ça va?
Bah nickel, hein, j'ai hâte de voir vos petits avis sur les actus sports de cette semaine.
Et d'ailleurs, on va peut-être commencer avec la première rubrique déjà, pour commencer. Alors pour commencer cette émission, nous allons aborder la Champions Cup et plus précisément le Stade Toulousain qui a décroché sa place pour les quarts de finale face à une équipe des Sharks qui a failli piéger les Toulousains en première mi-temps en menant de 5 points face au Stadiste et 10 à 15. Et c'est réellement en seconde mi-temps, que le match a vraiment débuté et où les Anglais de Sale n'ont pas vu le jour avec des essais de François Cross, Julien Marchand, Ange Capozzo, d'ailleurs un très bel essai, une percée magnifique. On a vu aussi qu'il s'est blessé, bon, c'est une courte blessure, environ 4 à 6 semaines, donc on verra la suite pour lui. Et Guillaume Cramon qui va finir le travail et toujours les transformations du serial buteur Thomas Ramos pour porter le score à 38 à 15 pour les Rouges et Noirs.
Hey, franchement, moi je te dis, c'est exceptionnel. Hein. Moi je te dis, franchement, le stade ne déçoit jamais. Et ben, c'est ce qu'on a vu ce dimanche au Stadium hein, face aux Sharks de Sales. Par contre, avant la mi-temps, c'était quand même serré. Hein. On va pas se mentir avec les Occitans et les Anglais. Hein, même si l'entame du match était plutôt bonne quand même, avec l'essai de Jack Willis, puis fameux Thomas Ramos, hein, exceptionnel, hein, toujours opérationnel, que ce soit dans les transformations ou même la pénalité à la 36e. Exceptionnel. Mais bon, on est d'accord, hein, les Anglais voulaient vraiment en découdre avec les essais de Luke James et John Hill et forcément les fameuses pénalités et transformations de George Ford. Donc forcément, première mi-temps, on avait 10 à 15 pour les Anglais, c'était pas fameux. Puis ouais, comme t'as dit, heureusement que la deuxième période était 100% toulousaine grâce au masterclass que nous a pondu Capozzo, je suis obligé de le dire, avec ses essais, dont le dernier, qui est vraiment exceptionnel. Tu le vois, il feinte vraiment la défense de Sale Sharks.
Il est trop fort.
Il a mis à la main de tout le monde, il est exceptionnel. Et voilà, après, ses appuis et ses courses ont été folles. Hein. C'est pas pour rien que c'est mon chouchou, ce mec. Hein.
C'est le meilleur.
Ouais, mais forcément, vu qu'il s'est blessé, avec son essai à la 75e minute, les Anglais ont fait exprès de tomber sur lui. Donc voilà, il s'est blessé malheureusement. Bon, j'espère que sa blessure n'est pas trop grave. Et comme tu as dit, il reviendra vite, hein, puisque c'est 4 à 6 semaines, je crois.
4 à 6 semaines normalement, selon les médecins du Stade Toulousain. Donc ça peut être une source fiable,
je pense. Voilà, en tout cas, j'espère que son retour sera grandiose. Bon, on va se passer de l'événement de l'avant-match, hein, même si tout s'est bien fini, hein, plus de peur que de mal. Bah, comme tous les gars du stade en fait, qui se sont fait parachuter en quart pour défier Toulon à Mayol. Hein. Grosse ambiance.
Et changement, ça devait être à Mayol au début et au final c'est au Stade Vélodrome que ça se déroulera, donc encore plus de personnes.
Ouais ouais. Exceptionnel.
Encore plus de personnes, donc ce sera le 13 avril que le Stade Toulousain ira affronter Toulon dans le mythique Vélodrome. On espère que ça réussira plus aux rugbymen qu'aux footballeurs, on en parlera un peu plus tard. Les autres quarts de finale, peut-être Mylan, tu veux en parler?
Castres qui sincèrement m'a extrêmement impressionné parce que réduit quand même dès la 44e minute. Ils ont réussi à l'emporter face à Trévis de 2 points. Ce qui m'a, à la dernière minute, ce qui m'a vraiment impressionné parce que j'y croyais pas du tout. Hein, deuxième mi-temps qui a quand même été très offensive et ils ont réussi à garder l'offensive du match. Donc non, c'était un très très beau match et je pense qu'on peut compter sur eux pour l'écart.
Donc Castres qui retrouvera Northampton le 12 avril. Les autres matchs, c'est Bordeaux-Bègles qui a fait une bonne performance, qui retrouvera le Munster. Et le dernier match, ce sera Leinster contre Glasgow le 11 avril. Donc rendez-vous ce week-end pour les plus belles affiches de top 14 en quart de finale. On va passer désormais au football et au quart de finale aller de la Ligue des Champions qui se sont déroulés hier et avant-hier. Donc on a vu la déroute du Real Madrid qui a perdu 3-0 face à Arsenal. Vont-ils remonter? Ça, c'est une question qu'on va se poser juste après. L'Inter a réussi à créer l'exploit à l'extérieur face au Bayern en gagnant 2-1. Barcelone a fait son carton habituel. Ils sont dans une dynamique incroyable. Donc ils vont pouvoir espérer aller chercher peut-être une Ligue des Champions en gagnant 4-0 déjà à l'aller à domicile contre Dortmund, et le PSG qui fait aussi la bonne opération, qui gagne 3-1 face à Aston Villa en se prenant le premier but, donc c'était mal parti pour les Parisiens. Et on sait que autour de cette équipe cette année, il y a un véritable engouement, il y a un truc qui s'est créé. Donc Maëlan, toi qui es supporter parisienne, tu peux un peu plus nous en parler.
Bah, c'était splendide, hein. Les étoiles encore plein les yeux, j'attends le retour à Birmingham avec grande impatience. Mais premier but, sincèrement, je m'y attendais. Donnarumma, je pense qu'il n'était pas encore prêt. Même, vous savez que c'est pas mon grand chouchou, même s'il nous a fait un match splendide face à Liverpool. Il faut qu'il soit réveillé du début du coup de sifflet et jusqu'à la fin. Et c'est pas le cas, malheureusement. Je pense qu'il faut qu'il nous prouve qu'il puisse assumer toute une saison. Hein. Et c'est pas le cas, donc j'attends de voir. Mais que dire de notre nouvelle star, Désiré Doué, pardon, qui nous a fait une lucarne. Mais alors là, je m'en remets pas. Hein. C'était splendide. Bon, petite quand même information que quand même tous les Parisiens n'arrivent pas à tenir sur leurs pieds. Ils ont tous glissé pendant ce match. Je n'en pouvais plus de les voir tomber par terre. Il faut faire quelque chose.
Mais ils ont une manie d'arroser les terrains. Ouais. En ce moment, ils ont une manie d'arroser les terrains, même en Ligue 1. De toute façon, le match contre Marseille, après, tu vas nous en parler, Alex. D'arroser les terrains, il faut des crampons longs maintenant pour plus glisser, parce que c'est un phénomène terrible en ce moment. Alex, t'avais retenu peut-être un des quatre matchs où tu voulais nous en parler?
Franchement, c'est compliqué à choisir entre Arsenal et Real Madrid. Hein, match exceptionnel et inattendu, vraiment, sachant que tu connais le niveau de jeu du Real Madrid. Arsenal qui est impressionnant cette saison. Puis là, je vais parler aussi de Barcelone-Dortmund, 4-0. Mais je pense que je vais plutôt me pencher sur Arsenal-Real Madrid, et non pas parce que tu supportes le Real Madrid, juste par rapport au fait que Declan Rice, mais c'était vraiment la star de ce match. Hein. Déjà qu'il met un but sur coup franc face à Courtois, c'est un géant ce mec, qui fait au moins 2 mètres de haut, c'est impossible de lui mettre un coup franc. Et ben là, Declan Rice, il a fait un exploit de lui mettre un doublé dans le même match sur coup franc. C'est Declan Rice ou Juninho, faut m'expliquer. Hein.
C'est vrai que là, un doublé sur coup franc, ça arrivait que très rarement en Ligue des Champions, surtout des aussi beaux et des aussi importants.
Historique.
En quart de finale, c'est vrai. C'est en quart de finale, donc Arsenal qui prend un sérieux avantage sur le Real Madrid. Après, on sait que le Real Madrid, sur les matchs retour, on les connaît.
On connaît Real.
On sait qu'ils peuvent faire des exploits. Ils ont, selon les statistiques, 4% de chances de se qualifier.
Après, ça, c'est que des chiffres. Hein. On connaît bien le Real Madrid. Il me semble qu'il y a quelques années, contre City, c'était hyper serré aussi. Puis je crois qu'il me semble qu'ils ont réussi à se qualifier sur le fil. Pourtant,
toujours.
C'était vraiment pas fameux, puisque City, ils avaient quasiment le même niveau. Et comme tu sais, Ancelotti, quand il lève le sourcil, ça annonce des grands moments.
Ouais, c'est la fameuse année où Karim Benzema remporte son ballon d'or, où on voit la statistique 1% de chance où le Real doit gagner. Et au final, le Real a gagné à domicile, donc on verra bien. Et d'ailleurs, on va se projeter un peu sur la semaine prochaine. On va passer peut-être à l'instant prono. Mardi et mercredi prochain, quart de finale retour donc de Ligue des Champions. On va passer un peu aux pronostics. Donc qui veut commencer peut-être pour les pronostics? Maëlan va donc commencer pour les pronostics. Maëlan, quels sont tes pronostics pour les quatre matchs à venir mardi et mercredi?
Je dirais quand même Real qui passe hein, avec un très gros match de leur part. Arsenal va avoir du mal à concrétiser. Donc je dirais... Est-ce que je tente un petit 4-0
ou alors 3-3 et ça se termine au pénalty? Il y a des possibilités.
Je les vois pas aller au pénalty. J'avoue, pas de pénalty pour moi. Je pense que le Real va réussir à faire pencher de leur côté.
Bayern-Inter.
Inter se qualifie.
Inter se qualifie.
Ouais, Bayern m'a pas convaincu, même si je croyais en eux au début. Je pense que je passe pour l'Inter. Ensuite, pour moi, ça va être compliqué de dire le contraire, mais je pense PSG hein, qui l'emporte sur Aston. Je pense qu'ils peuvent nous faire une grande surprise à Birmingham et j'attends que ça. Et ensuite, le Barça, hein, je pense que tout s'est déjà joué et montré lors de l'aller. Là, ils n'ont plus qu'à concrétiser. Je ne vois pas Dortmund l'emporter, vraiment pas.
Valide tes réponses.
Je valide.
Alexandre, tes quatre pronostics pour mardi et mercredi qui arrivent cette semaine. Un peu compliqué de dégager peut-être un gagnant à part le FC Barcelone. Dis-nous en plus.
Bon, écoute, par rapport à Barcelone-Dortmund, rappelle-toi, il y a longtemps, quand le PSG a été... il me semble qu'ils avaient mené 4-0 en 2017 face au Barça.
Ouais.
On connaît la suite, remontada. C'est historique, du jamais vu. Mais par rapport à ce que j'ai vu là pour Barcelone-Dortmund, Dortmund ne m'a pas vraiment convaincu. Donc je pense qu'on est sur une qualification nette, sans bavure du Barça. Après, je vais plutôt aussi me pencher d'abord sur Arsenal-Real Madrid. Effectivement, Mylène t'a dit que tu voyais bien le Real Madrid se qualifier parce qu'on ne sait jamais les matchs retour au Bernabeu. Ça peut être plein de surprises, il peut y avoir énormément de choses qui peuvent se passer. Mais moi, je pense qu'honnêtement, le Real Madrid a vraiment été sonné là, à Arsenal. Enfin, face à Arsenal, donc là, au retour, à moins qu'ils mettent au moins deux buts, je ne les vois pas vraiment se qualifier. Mais on ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Donc je pense, à mon avis, le Arsenal va perdre 2-0 au Bernabeu, mais ils seront quand même qualifiés, je pense. Par rapport à Bayern-Inter, bon, le Bayern, pareil, m'a pas trop convaincu. L'Inter, premier de Serie A, en ce moment, ils font une bonne saison. Je pense, à mon avis, match retour, on va partir sur match nul, mais l'Inter se qualifie. Et PSG-Villa, on sait, Paris, ils aiment bien être malchanceux parfois sur certains matchs. Ils se qualifient, puis finalement, au match retour, c'est très compliqué. Mais je pense que Aston Villa, c'est pas un adversaire ultra redoutable non plus. Et surtout qu'en plus, 3-1, c'est quand même un bon score. Donc je pense que oui, le PSG va se qualifier.
Ok, donc Barcelone, Inter, Arsenal et PSG qui y passent finalement. Donc pas trop de changement par rapport au match aller. Donc tu valides ta réponse.
Je valide mes réponses. Et Raphaël, bien sûr, on attend tes pronos.
Mes pronos de mon côté, je vais commencer peut-être par Bayern-Inter. J'espère peut-être un sursaut du Bayern, parce que quart de finale, bon, on sait qu'on peut les attendre plus haut, malgré la surprise de l'Inter qui est premier de série, qui fait une très bonne série. Donc peut-être un retour du Bayern, même s'ils sont à l'extérieur, peut-être un élan de motivation pour aller accrocher des demi-finales. Donc je vois le Bayern passer. Pour ce qui est Arsenal-Real Madrid, en tant que supporter madrilène, j'ai envie du 4-0 ou du 5-1, mais... Vu la physionomie du premier match, vu comment ils ont été inexistants, vu comment Arsenal a réussi à neutraliser les 4 fantastiques de devant, franchement, j'y crois pas. À moins d'aller chercher un 3-3 et de gagner au pénalty. Mais franchement, la qualif d'Arsenal, pour moi, me paraît inévitable. Barcelone-Dortmund, Barcelone, ils ont pris déjà une sérieuse avance sur Dortmund à domicile. Ils ont fait le boulot. Dortmund est 3e de Serie A derrière le Bayern. C'est pas leur meilleure année en championnat, donc je vois le Barça confirmer, pas avec un gros score, mais avec un but ou deux d'écart maximum. Et pour le PSG, je les vois se qualifier, parce que franchement, le match que j'ai vu hier soir, j'ai senti un engouement autour de cette équipe, un truc qui s'est créé, je sais pas, je l'avais pas ressenti les années d'avant, mais j'ai senti un truc qui s'est créé autour de cette équipe de Paris. Il y a un mélange d'expérience avec la défense, avec Marquinhos et la jeunesse et l'insouciance de Désiré Doué, donc je vois le PSG passer... passer largement avec un plein de confiance qu'ils vont pouvoir peut-être faire ce week-end en championnat. On va rester un peu sur le PSG parce qu'il y a quand même une actualité phare en Ligue 1 le week-end dernier, c'est qu'ils sont devenus champions, donc le PSG champion à 6 matchs de la fin, toujours invaincu. Maëlan, Alexandre, est-ce qu'on y croit à cette série d'invincibilité du PSG?
Alors, le PSG, on connaît, hein. Il y a certains matchs où ils ont failli, alors je ne sais plus lequel, mais il me semble qu'il y a un match où ils ont failli perdre cette invincibilité, mais on connaît le PSG. En Ligue 1, ils roulent sur tous les clubs, hein. La preuve, c'est pour ça justement que contre Angers, ils ont fini champion alors qu'il restait au moins 6 rencontres avant la fin. Je pense, à mon avis, il y aura sûrement un match, je ne sais pas exactement lequel, mais je pense que dans les 6 matchs à venir, à mon avis, ils vont perdre parce qu'ils ont déjà le titre... de suite, hein, et il se focalise surtout sur la Ligue des Champions. Donc je pense que s'ils perdent en Ligue 1, bon bah, même si l'homologue marseillais, hein, qui est deuxième, espère gratter quelques points pour pas être non plus être derrière le PSG, même si le PSG est champion. Voilà, moi je pense, à mon avis, le PSG va perdre un seul match sur les 6, parce que là, comme je t'ai dit, ils sont champions, ils se focalisent sur la Ligue des Champions, et voilà.
Maëlan,
j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire en tant que supportrice. Est-ce qu'ils vont le faire? C'est dur. Hein. C'est dur. Il y en a qui jouent encore les places en Ligue des Champions. Donc, je pense aussi qu'il y aura un ou deux matchs où ça va casser. Mais ils peuvent le faire, il faut qu'ils croient en eux, parce que là, ce qu'ils nous font, cette saison, elle est splendide. Il y a quelque chose qui est créé, qui est solide. Donc, se faire confiance à l'entraîneur. Enrique nous a créé une solide équipe. Donc, même s'il domine largement le championnat français, il faut qu'il fonce.
Pour cette dernière partie de la rubrique foot, on va parler évidemment du TFC. Hein, on reprend les bonnes habitudes évidemment. Le TFC qui reprend aussi les bonnes habitudes, hein, qui commence à perdre, à faire des matchs un peu catastrophiques. Défaite 3-2 des Violets face à Marseille au Vélodrome. Hein, dans un match où Toulouse a eu la possibilité de renverser la rencontre, a eu la possibilité de gagner depuis, ça fait au moins 12 ans qu'ils n'ont pas gagné en championnat contre l'OM. Ils avaient les possibilités, donc on rappelle un peu les buteurs. Premier but, c'est de l'OM, donc c'est Gabriel Soiseau, but contre son camp. C'est un but magnifique contre son camp, franchement, c'est un top but. Ensuite, on a Franck Magri qui revient. 5 buts en 5 matchs, quand même, je pense que c'est le seul point positif du TEF en ce moment. Donc, qui revient avec un superbe but de la tête. Ensuite, c'est Mason Greenwood qui vient porter le score à 2-1. Puis Vincent Sierrault qui vient réduire le score à 3-2 en fin de match sans pouvoir revenir à 3-3. Donc beaucoup de déceptions du côté du TFC. On a vu des occasions, notamment Babika, pour ne pas le citer, qui rate des occasions inratables. Donc il y a de l'espoir, c'est que Marseille jouait très haut, jouait très découvert. Et malheureusement, sa absence de buteur efficace, on n'a pas pu gagner. Mais avec un buteur efficace, on aurait pu gagner. Donc il y a des motifs d'espoir pour la saison prochaine, parce que de toute façon, l'Europe n'est pas atteignable et le maintien est déjà acquis. Donc des motifs d'espoir pour la saison prochaine et on sait sur quoi bosser. Alex, toi, tu y étais en parcage marseillais, raconte-nous un peu.
Bah écoute, l'ambiance au Vélodrome, j'ai rien à dire, c'est un autre monde. Hein. C'est niveau ferveur, on peut pas faire plus. Alors oui, effectivement, il y a d'autres clubs, le PSG, tout ça, mais l'OM, tu vas dans le stade, c'est exceptionnel. C'est parce que j'ai fait le déplacement là-bas, au Vélodrome, et on ne s'entendait même pas chanter dans le parcage visiteur. Alors qu'on était au moins 200 Toulousains, après il faut pas s'attendre à grand-chose, 200 Toulousains, face à 64 320 Marseillais au moins au stade. Enfin, je crois que c'était un match à guichet fermé alors que c'était contre le TFC quand même, pour te dire le niveau ferveur. Mais bon, voilà, mis à part l'ambiance exceptionnelle, le match sur le terrain, bon, c'était un peu moins. Comme tu l'as dit, je crois que le contre son camp de Soiseau, très beau contre son camp d'ailleurs.
Magnifique.
Je savais pas que Soiseau jouait pour l'OM à ce moment-là. Non, mais vraiment. Mais voilà, ça nous a pas du tout rassurés, même si heureusement que Magri, depuis février, il me fait que enchaîner des buts. Et là, même contre Marseille, ça fait plaisir de marquer contre le Vélodrome. Il a su répondre aux attentes, hein, en arrachant le nul à la mi-temps. Un partout, ouais, j'y croyais au match nul à partir de la mi-temps. Même si, faut quand même dire qu'en première période, on a eu un but refusé pour Marseille déjà. Donc, il aurait pu très bien avoir 2-1 pour Marseille à la mi-temps. Donc voilà, 1-1. Mais bon, après, deuxième période, voilà, l'OM n'a pas du tout tremblé. Tu l'as vu avec les buts venus d'ailleurs de Greenwood. Greenwood, but de loin, reste, il ne pouvait rien faire. Et la reprise de volée de Rabiot. Et sans parler en plus des deux buts, au moins des deux buts refusés de Marseille. Hein. Bon, je t'ai dit, en première période, il y avait un but qui a été refusé, et le deuxième but qui a été refusé, le quatrième but, il aurait pu avoir 4-1. Sans parler des chants toulousains qu'on entendait, puisque voilà, ils étaient hyper nombreux, on les entendait chanter contre nous, c'est comme ça, c'est Marseille. Donc voilà, heureusement qu'on perd que 3-2. Franchement, je ne suis pas si déçu que ça. Marquer au moins deux buts au Vélodrome face à l'OM, c'est déjà très très bien. On aurait pu très bien perdre 4-1 et rentrer chez nous, bredouille. Donc voilà, l'objectif d'arracher le nul était très envisageable. Mais voilà, je ne m'attendais pas non plus à voir le TEF gagner au Vélodrome, quoi. Puisque même si l'OM avait des résultats en dents de scie, la preuve, ils avaient perdu contre Reims, hein, 3-1. Je savais qu'en plus, avec le discours de Zerbi qui disait qu'ils allaient écraser Toulouse, je savais comment c'était, enfin de quoi ils étaient capables. Puis je vais reprendre ce que tu as dit au tout début, effectivement, Marseille n'a pas perdu face au TEF au Vélodrome depuis la saison 2011-2012.
C'est ça, le championnat,
gagné,
ouais.
C'est ça, le TEF avait gagné 1-0 et c'était Abdennour le buteur.
Abdennour, purée,
ça remonte à très loin.
Et la dernière victoire tout court, c'était en Coupe de la Ligue, donc contre Marseille, c'était au Stadium. Mais la dernière victoire en championnat, 2011-2012, c'est long.
C'est ça, ouais.
Mais donc, on a vu Magri, qui est au top de sa forme, 5 matchs en 5 buts, encore une fois. Bon, but un peu chanceux, mais il le met, le but, au moins, il le met. Donc, c'est le seul point positif, moi, que je retiens du TFC. Je sais pas toi, parce que Sidibé, il est plus inexistant qu'avant. Babika, n'en parlons pas, et Guillaume Rest, je sens une grosse baisse de niveau de la part du jeune gardien toulousain. Je sais pas ce que t'en penses, Alexandre.
Après, je vais un peu faire l'avocat du diable par rapport à Guillaume Rest. Il est jeune, c'est vrai, surtout que cette saison, il a surtout été le gardien le plus utilisé du TEF. C'est que quand, oui, effectivement, Hogg, il est revenu de son prêt, on a fait un peu souffler Rest parce qu'il n'arrêtait pas de jouer en permanence. Mais là, depuis sa dernière blessure, effectivement, sa forme n'est pas au top. Mais bon, après, face à Marseille, il ne fallait pas s'attendre à grand-chose. Dans tous les cas, on allait se prendre un but face à eux. Ce qui est bien, c'est qu'on ne s'est pas pris non plus 6 buts derrière.
C'est vrai, ça. Donc, des matchs où on prenait 6 buts contre Marseille.
Et c'est ça, surtout. En plus, l'arrêt de Guillaume Rest à la toute fin. Il me semble que Marseille, ils avaient fait une frappe exceptionnelle. Guillaume Rest, il lâche une grosse parade. Ça aurait pu vraiment être pire. Mais bon, voilà, 3-2. Et comme je t'ai dit, voilà, Guillaume Rest, on va voir. On attend un peu qu'il souffle. Et puis, je pense que dans quelques matchs là qui vont venir, à mon avis, il sera au top. Mais de toute façon, on joue pas l'Europe, on joue plus rien. L'important, c'est qu'on reste dans le ventre mou. Hein. C'est ce que Comolli nous avait promis, je crois.
C'est ça, exactement. C'est l'objectif, ne rien jouer pour le TFC. On change totalement de sport avec désormais la Formule 1 qui a continué le week-end dernier, qui s'est déroulé donc au Japon sur le mythique Grand Prix de Suzuka, qui a vu couronner Max Verstappen encore une fois sur la même lignée que l'année dernière, qui vient détrôner les deux McLaren sur un Grand Prix où les positions n'ont pas bougé. Les 6 premiers en qualif sont les 6 premiers à l'arrivée. Les trois Français, donc Isaac Hadjar est 8e, donc première fois qu'il rentre dans les points, donc c'est franchement une fierté pour la France. Pierre Gasly 13e et Esteban Ocon 18e à bord de sa Haas. Qu'est-ce que vous retenez, vous, du Grand Prix ?
Alors, le Grand Prix de Suzuka, bon, une petite pensée à Jules Bianchi, quand même. Toujours Grand Prix de Suzuka, on se rappelle, hein, ça fait au moins 11 ans, je crois, l'accident. À peu près 2014, il me semble.
Ouais, c'est ça. 2014.
C'est ça, donc ça fait au moins 11 ans qu'il y a eu cet accident, et ce qui a permis, justement, malheureusement, avec son accident, la création du Halo, qui a sauvé pas mal de pilotes. Et ça, il faut quand même le souligner. Mais bon, mis à part l'hommage à Jules Bianchi, faut le dire, c'était un Grand Prix incroyable. Hein. Bah, déjà avec le retour de Verstappen qui finit champion alors qu'il n'avait pas gagné depuis longtemps. On n'entendait plus du tout parler de Verstappen là, ces derniers temps. Donc Verstappen est revenu. Et je ne vais pas non plus parler du podium de McLaren. Ils sont toujours présents depuis la saison dernière. On les voit en permanence, que ce soit deuxième, troisième place. Ils sont impressionnants alors qu'on se rappelle l'année dernière. Et ils partaient un peu mal, hein, mauvaise stratégie, tout ça. Puis on ne sait pas pourquoi. Ils reviennent et puis ils concurrençaient des écuries comme Red Bull, Ferrari, tout ça. Bah, c'est le cas actuellement. Hein. Mais bon, pour moi, le fait notable quand même de Grand Prix de Suzuka, c'était le 21e tour. Faut le dire quand même, parce que pendant les arrêts au box de Max et de Norris, l'erreur qui a coûté cher la première place de Norris, c'est ce qu'il a... Il a perdu du temps en revenant sur la piste après avoir roulé sur l'herbe. C'est vraiment bête de sa part, malheureusement. Ce qui a permis à Max de conserver sa première place. Donc effectivement, c'est une grosse erreur de stratégie de Norris, ça, faut le souligner. Mais surtout, ce qui m'a impressionné dans ce Grand Prix, c'est le fameux rookie Kimi Antonelli, le rookie italien avec Mercedes, qui a fini à la 6e position, alors que c'est devenu le plus jeune pilote de Formule 1 à tout juste 18 ans. Il a réalisé son meilleur tour en course. Hein. Moi, j'ai 21 ans et je parle avec toi, alors que lui a 18 ans. 6e place, Suzuka, exceptionnel. Très beau parcours.
C'est devenu le plus jeune pilote à être en première place d'un Grand Prix. Donc, il a été pendant une dizaine de tours le temps d'effectuer les arrêts au stand. Mais c'est devenu le plus jeune pilote à être leader d'un Grand Prix devant Max Verstappen, qui est déjà batté des records de précocité. Donc, ça en dit long peut-être pour la suite, pour Kimi Antonelli.
On se rappelle aussi d'Oliver Berman. Oliver Berman et puis maintenant Kimi Antonelli. Là, les rookies en F1, ils sont très très nombreux à percer. Hein. Que ce soit 17 ans, 18 ans, tu les vois, ils brillent de suite alors que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça en Formule 1. Et ça, c'est remarquable.
Bon, moi j'avoue, sur ce GP, j'ai un avis un peu controversé. Hein. Je me suis ennuyée du début à la fin. Aucune action. Il n'y a rien eu. Et je pense que je vais être d'accord sur les propos de Vasseur. Hein. Clairement, maintenant, c'est les qualifs qui vont être le plus important. C'est à ce moment-là que tout se joue. Et comme on voit le changement des monoplaces, hein, elles deviennent plus larges, elles prennent plus de place du coup. Donc les dépassements sont beaucoup plus compliqués. Il faut sinon jouer avec le risque. Donc je pense que ça tente Verstappen. Mais vu qu'il est en tête et que personne vient le déranger, bah, ça va être compliqué. Donc les McLaren étaient 2-1, elles n'ont pas réussi. Je pense que la stratégie a été mauvaise, hein, côté McLaren. Il va falloir soit mettre un gros leader, une tête de série en fait, entre les deux, et ils n'arrivent pas à choisir. Et, ou sinon que bah, Piastri soit là pour aider Norris pour le championnat. J'en sais rien, mais il va falloir, je pense, réfléchir du côté de McLaren. Mais sinon, que dire de notre petit Français Hadjar qui marque ses premiers points. Je pense qu'il nous a fait rêver et je pense qu'on peut compter sur lui tout le long de cette saison parce que moi, il m'a impressionné. Il a tenté quelques dépassements et ainsi de suite. Bon, après, c'est le circuit, moi, qui ne me plaît pas non plus, qui ne me fait pas rêver. Hein. J'attends Bahreïn avec grand plaisir ce week-end. Mais ça n'a pas été le Grand Prix qui m'a eu avec grand plaisir, mais non, à voir avec ce week-end et le week-end qui suit, parce que là, on va enchaîner avec de grands week-ends de Formule 1 et de MotoGP qui arrivent aussi. Donc, c'est les rookies sont présents, Verstappen revient et les McLaren sont au rendez-vous. Bah, juste Ferrari qui n'est pas dans nos attentes.
T'as relevé un truc intéressant, c'était McLaren, parce que j'ai vu en fin de Grand Prix, on pouvait voir que Piastri avait un meilleur rythme que Norris, et Norris voulait pas laisser passer Piastri pour essayer de tenter quelque chose, pour essayer d'aller embêter Max, alors que ça aurait été le principe du jeu d'équipe en Formule 1 pour essayer d'aller embêter Max Verstappen, qui semble indétrônable lorsqu'il contrôle au maximum sa Red Bull. Donc va falloir faire des choix du côté de McLaren. Ferrari, c'est un peu décevant parce que de toute façon, on avait vu toute la communication autour de l'arrivée de Lewis Hamilton, autour de l'arrivée du duo. Et pour les qualifications aussi, tu as dit un truc très intéressant, c'est que maintenant, Frédéric Vasseur, pardon, a dit un truc très intéressant, c'est que tout se joue sur les qualifications. Et j'avais remarqué quelque chose aussi, c'est qu'à chaque fois, à chaque nouvelle pole position, il y a un record du circuit qui est établi. Donc, c'est-à-dire que les nouvelles monoplaces sont encore plus rapides et que pour avoir la pole position, il faut faire le record de l'histoire du circuit. Donc c'est pour dire le niveau qu'on demande en qualification pour être en première position. Et ben, on a vu sur les trois premiers Grands Prix que les positions ne changeaient pas beaucoup. On espère qu'à Bahreïn, les stratégies marchent bien, l'undercut marche bien. Donc on pourra avoir peut-être des échanges de positions, des accidents. Si on espère la pluie à Bahreïn, ça va être un peu compliqué.
Mais du coup, moi je voulais savoir un peu vos avis par rapport au deuxième pilote de Red Bull. Qu'est-ce que vous en pensez, Tsunoda ?
Je pense que plutôt je vais te laisser la parole, Raphaël, par rapport à ça.
Mais Tsunoda, c'est un peu un coup de com' de l'avoir mis en premier Grand Prix au Grand Prix de Suzuka. On sait que c'est son pays d'origine, donc c'est important pour lui de courir la première course chez Red Bull, chez lui, à Suzuka. Je pense qu'il fallait laisser un peu plus de temps quand même à Liam Lawson. Bon, on connaît la politique de Red Bull et de Helmut Marko de dire on laisse pas de chance aux pilotes. Hein. C'est soit t'es bon maintenant, soit tu dégages techniquement. Donc c'est un peu dommage d'avoir viré Liam Lawson, surtout que j'avais vu quelques interviews de Christian Horner qui disait justement de lui laisser du temps. Bah c'est bon, 3 courses pour eux, c'est du temps. Donc c'est bien, Tsunoda de toute façon mérite de monter chez Red Bull, ça fait longtemps qu'il fait du très bon boulot chez Vécarb, maintenant que ça s'appelle Vécarb. Donc c'est mérité, et à voir, hein, peut-être si Tsunoda fait des mauvais résultats, c'est peut-être Hadjar qui va monter cette fois-ci, ça va être un peu marrant. Mais toi, du coup, qu'est-ce que t'en penses, Mylan ?
C'est parce que j'ai pas trouvé Tsunoda splendide lors de ce GP, hein. Mais après, bon, ce GP n'a pas été splendide pour tout le monde. Hein. Donc, non, début de saison quand même, moi, Tsunoda me fait rêver depuis quand même quelques saisons, hein. J'aime beaucoup ce pilote. Lawson, pour moi, n'a pas sa place chez Red Bull pour cette première saison. Je pense qu'il doit rester là où il est. Il aurait dû déjà ne pas venir dès le départ. Est-ce qu'on met Hadjar ? Je pense pas. Je pense qu'il faut laisser les petits jeunes de l'autre côté et à voir. Mais je pense que ça a été bien sûr trop vite décidé pour Lawson. Mais ils auraient dû choisir dès le départ de faire un duo Verstappen et Tsunoda.
De toute façon, on verra bien la suite de l'aventure Tsunoda chez Red Bull. Dimanche à 17h à Bahreïn. Pour terminer cette émission, on perd pas les bonnes habitudes, on finit toujours par le résultat du Phoenix qui a perdu cette fois-ci donc face à Nantes, 34-29 dans un match où Toulouse n'a pas vu le jour malgré les 29 points marqués, où ils ont espéré revenir en fin de match face à des Nantais second du championnat et qui restait quand même sur une défaite le match dernier. Donc il y avait espoir pour les Toulousains, mais ils n'ont pas vu du tout le jour face aux Nantais. Prochain match du Phoenix, c'est face au Paris Saint-Germain, hein, qui n'a pas perdu depuis 10 matchs. Donc ça va être aussi une bonne expérience pour voir si Toulouse peut continuer son chemin européen ou pas, parce qu'on rappelle que Toulouse a gagné contre Porto en Ligue des Champions, en Europa League de handball.
Europa League, oui.
Exactement. Donc prochain match du Phoenix, c'est contre le PSG. Sur les 10 dernières rencontres du Phoenix et du PSG, c'est 7 victoires pour le PSG et 2 victoires pour le Phoenix. Donc on peut espérer peut-être un petit exploit, malgré que le PSG semble survoler encore une fois, comme toutes les années, la Ligue de handball. Et on espère une petite relance pour le Phoenix, qui voudra s'empêcher d'être sur 2 défaites d'affilée.
Oui, c'est ça. Puis après, moi, je vais intervenir par rapport au match Nantes-Toulouse. Bon, ça, c'est pas si humiliant que ça. Je veux dire, Phoenix perd 34-29. Puis après, il faut les comprendre, hein, Toulouse, ils ont perdu. En fait, oui, ils ont gagné, certes, contre Porto. Mais par rapport au match aller et match retour, c'est Porto qui s'est qualifié. Voilà, donc Porto s'est qualifié en Europa League. Bon, dommage. Une victoire, mais à quel prix pour Porto ? Donc voilà, le Phoenix, c'est un peu normal. Ils sont un peu fatigués par rapport au parcours européen qu'ils ont fait, qui pour moi était vraiment extraordinaire. Malheureusement, ça s'est terminé sur Porto. Mais je suis quand même satisfait par rapport à la saison que fait le Phoenix en ce moment, puisque là, ils sont cinquième à égalité de points avec Saint-Raphaël. Ils sont toujours européens en Europa League. Donc après, voilà, moi, je ne m'attends pas non plus à ce qu'ils atteignent la troisième place, puisqu'il y a, ouais, il y a énormément de points d'écart. Quand même, il faut voir que Montpellier a 37 points, le Phoenix a 26 points. C'est un peu compliqué, surtout pour cette fin de saison, sans parler du PSG qui, pour moi, on va dire, lutte entre Montpellier, Nantes et pour le titre de champion, mais on pense tous que le PSG va remporter, voilà. On se demande bien pourquoi. Mais bon, par rapport au Phoenix, moi, surtout, ce que je veux, c'est que le Phoenix reste, que ce soit 5e, 4e place, tant qu'il se qualifie à nouveau pour l'Europa League. Enfin, pour, c'est ça, oui, l'Europa League de handball, il faut le dire. Mais j'espère que grâce à ça, ils vont peut-être se relever la saison prochaine et peut-être faire un meilleur parcours que celui de cette année, même s'il était vraiment pas mal. Et je félicite le Phoenix pour ça.
Exactement, parce que l'année dernière, on les avait suivis aussi. Ils tournaient autour de la 3e, 4e place. Ils arrivaient à titiller une équipe comme Montpellier. On sait que Nantes et le PSG étaient intouchables la saison dernière, comme encore une fois cette saison. Donc on verra bien. De toute façon, le prochain match, c'est à domicile, au Palais des Sports, Phoenix-PSG, le week-end là qui arrive. Donc on suivra tout ça. L'émission touche à sa fin, donc pour cette reprise, ça a été un plaisir de reprendre l'émission encore une fois. On va se retrouver la semaine prochaine, toujours pour toujours plus d'actualité. La semaine prochaine, on parlera justement du match de quart de finale de Champions Cup Toulon, qui accueillera au Vélodrome le Stade Toulousain. Donc on espère que le Stade va gagner, va faire une bonne performance pour aller accrocher peut-être un deuxième type de Champions Cup consécutif. Pour rester sur le rugby, il y aura la fin destination féminine, donc la France qui est actuellement deuxième du tournoi destination féminine, donc on espère peut-être une victoire française et un grand chelem. L'Angleterre est première, donc elle va être difficile à décrocher, mais on espère pour nos rugby women françaises. Pour passer sur le foot, on ira évidemment parler des quarts de finale retour de Ligue des Champions, avec le résultat des pronostics et le résultat des vrais matchs. Donc on espère pour nos équipes respectives que tout le monde va passer. Après avoir fait un tour d'Europe, on reviendra évidemment en France avec la bonne vieille Ligue 1 et ce match TFC qui accueillera Lille pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Le TFC qui devra se relancer face à, on peut dire, une contre-performance contre Marseille vu les occasions qu'on a eues, même si Marseille aussi aurait pu gagner. S'il y a des motifs d'espoir pour le TFC face à cette équipe de Lille. On ira ensuite à Bahreïn pour le Grand Prix de Formule 1, donc 2 week-ends d'affilée de Formule 1, ça fait toujours plaisir. On espère des petites surprises, peut-être un retour de Ferrari. Pour le MotoGP, ce sera au Qatar, donc ce sera un double week-end de sport mécanique aussi à suivre, il me semble, sur Canal+. Donc il y en aura pour tous les goûts ce week-end, il y aura du rugby, il y aura tout. On continue avec le tennis. Le tournoi de Monte Carlo qui touchera bientôt à sa fin, donc ce sera intéressant d'en parler. On a vu Arthur Fils aujourd'hui qui a fait une très bonne performance, donc on espère qu'il puisse aller loin dans ce tournoi. Ensuite, nouveau sport débloqué dans l'émission, évidemment, de l'aviron. Donc Maëla nous parlera des championnats de France et on essaiera peut-être aussi d'avoir une interview pour un peu plus d'immersion. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou pas?
Je verrai en fonction de ce week-end, de voir nos petits champions et championnes de France, jeunes ou moins jeunes, mais vous faire découvrir ce monde.
Nickel. Et Pour finir, donc, les deux derniers sujets, le fameux Paris-Roubaix, la fameuse épreuve des pavés. C'est l'épreuve en vélo que tout bon cycliste veut gagner et veut faire. C'est une épreuve mythique. Donc on verra bien, peut-être Pogacar, tu m'as dit Maëlan, qui ça n'a pas l'air de te faire très plaisir. Mais Pogacar peut-être favori pour cette édition 2025 de Paris-Roubaix. Et évidemment, on finira par le match du Phoenix qui jouera face au PSG. Merci de nous avoir écoutés, merci à Alexandre d'être revenu, c'est le retour de l'émission.
Ah oui, c'est le retour, ça fait très longtemps que j'attends, parce qu'avant j'étais à deux doigts de me gratter les oreilles. Non, plus sérieusement, c'était un grand plaisir, surtout de parler avec toi, même avec Maëlan, hein, grand plaisir, on a pu débattre ensemble, on a pu avoir chacun des avis peut-être différents, mais on est tous unis par, et ça les mêmes avis.
La passion du sport.
La passion du sport.
Maëlan, première émission, ça va ?
Merci pour l'accueil déjà, et ça fait toujours plaisir de parler sport avec d'autres personnes, donc, et d'avoir soit des avis communs ou divergents, c'est bien.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette reprise de temps additionnel, et avec toute l'équipe, on vous dit
à la semaine prochaine.